Chapitre 14. J'avais lu quelques-uns des romans de Kundera avec un certain plaisir, mais sans en garder un souvenir vivace. J'avais trouvé faible l'adaptation cinématographique qui avait été faite de l'un de ses textes. Me restait simplement du film l'image d'une brune plantureuse avec une toison pubienne sombre et fournie qui dansait nue, je crois, avec un chapeau sur la tête. Eugène était un bien plus grand lecteur que moi. Son appartement, en cela, était trompeur, car les pièces étaient dépourvues de livres. Il n'en gardait aucun chez lui. Sitôt lus, il les donnait, ou les abandonnait sur un banc, dans un train, sur la table d'un café. Il faut que ça tourne, comme le monde. Oui. Maintenant qu'Eugène m'avait dit cela, je reconnaissais Kundera dans ce vieillard sculpté dans du bois mort, dont le visage paraissait constamment transcrire une importante contrariété ou une colère qu'il parvenait tout juste à dominer. Ma difficulté à le reconnaître, dans un premier temps, tenait simplement au fait que je l'avais perdu de vue pendant une vingtaine d'années. Non pas que je le connaissais personnellement, mais j'étais resté avec une image ancienne de lui, disons une photographie parue dans la presse, qui datait du début des années 90, ou un passage à la télévision, à la même époque, je ne sais plus trop. On ne mesure jamais si bien le temps qu'en rencontrant par hasard, au détour d'une rue, un homme ou une femme avec laquelle notre dernière rencontre remonte à plusieurs années. Nous étions restés, avec dans notre mémoire le décalque précis d'un visage, d'une couleur de cheveux, d'une peau, d'une allure, tout cela fixé comme un trait dans le marbre, et nous subissons de plein fouet l'agression que représente cet autre, vieilli, qui nous impose de voir en lui ou en elle notre propre vieillissement, vieillissement que nous refusons d'accepter, dont nous ne prenons jamais vraiment la mesure, tant l'accoutumance que nous en avons de nous-mêmes, la progression quotidienne et donc infinitésimale des marques du temps sur notre corps, nous donne l'opportunité de nous y habituer en douceur, au ralenti, comme dans le travail obsessionnellement quotidien d'autoportrait que l'artiste Roman Opalka a fait durant des décennies sans que cela engendre un choc émotionnel. Et lorsque nous regardons des photographies anciennes de nous-mêmes, ce n'est pas la même chose que de rencontrer cette connaissance perdue de vue et retrouvée, imposée, placée d'autorité sous notre vue comme une facture des années passées que nous aurions négligé de payer et qu'on nous demanderait de régler comptant sur le champ alourdi de substantiels intérêts. Le barman venait d'apporter un café à Kundera et un thé à la personne qui l'accompagnait, sèche comme lui, vêtue d'un manteau lourd, les cheveux coupés courts, disparaissant sous un béret de laine couleur prune. Il n'avait pas eu à commander, des habitués, qui n'adressèrent ni un mot, ni un regard au barman quand celui-ci posa les tasses devant eux, trop pris qu'ils étaient par leur conversation, une conversation à la parole répartie avec équité, chacun se lançant dans une assez longue réplique, puis laissant à l'autre le loisir de prendre la main et de la garder pour un temps équivalent. Tout cela me faisait penser aux échanges interminables d'un match de tennis de la fin des années 70, un peu ennuyeux, avec Björn Borg d'un côté du filet et Ivan Lendl de l'autre. De quoi pouvait-il donc parler avec autant d'intensité, presque de haine, même si le volume de leur voix restait toujours faible? La façon dont les différentes langues du monde prennent le pouvoir sur nos corps, expression du visage et des mains, modulation de la voix, balance entre les aigus, les médiums et les graves, nasalisation, sons gutturaux ou flûtés, accentuation, rythme respiratoire, peut amener à des erreurs fondamentales sur l'interprétation des intentions du locuteur. Je me souviens d'une scène dans un petit port de pêche de la baie d'Along, où j'étais parti tourner en 2009, des images que je pensais intégrer dans une installation vidéo qui m'avait été commandée par le musée municipal pour l'art actuel de Gand sur les notions d'espace, de dissolution et de limite. J'étais depuis 3 jours dans la baie et j'avais négocié avec un pêcheur pour embarquer à bord de son bateau, sur lequel il vivait avec sa femme et ses trois enfants. Je n'avais pas d'itinéraire à lui soumettre, il ferait comme bon lui semblerait. Je jouais des heures avec les enfants, j'aidais parfois le pêcheur à remonter un filet, j'allais sur le pont, m'y allongeais, je fermais les yeux longtemps, les ouvrais soudain, et devant moi, la terre, de nouveau, tentait d'imposer à la mer la présence constellée de dents hautes, chicots énormes, fichés dans les eaux vertes, bourdonnant d'une végétation moussue, peuplée d'oiseaux et de rumeurs. Je dormais dans un hamac qui bougeait un peu avec la houle et me faisait croire qu'on m'avait ménagé une place confortable dans le grand balancier d'une horloge dont j'étais devenu le gardien, comme on peut être gardien de phare. Nous mangions assis, tous en rond sous un auvent de toile, du riz blanc et du poisson, des légumes. Le soleil me paraissait dérouté par le cap changeant du bateau. Je filmais parfois sa lueur à la surface de l'eau, ou les ombres massives qu'il tentait d'imposer à la mer en faisant basculer sur sa surface un pan entier de jungle et de falaise. Dans un petit port où nous avions mouillé, j'étais descendu à terre pour marcher un peu dans le village. Quelques maisons de paille tout au plus, une amorce de rue dans laquelle, à même le sol de terre battue, des enfants jouaient avec un cochon noir, un chien et quatre poules. Soudain, une dispute d'une incroyable violence éclata quelques mètres plus loin. Cinq hommes se tenaient accroupis autour d'une bassine en plastique dans laquelle de gros poissons pâles, semblables à des carpes malades, sortaient de temps à autre leur gueule de l'eau, blanche et parsemée de barbillons, pour l'ouvrir largement à l'air comme s'ils tentaient d'implorer du secours. Les deux, qui se faisaient face, criaient plus fort encore que les trois autres, leurs voix s'entrechoquaient comme des épées, produisant des sons tout à la fois sourds et aigus, tranchants. Chacun d'eux tendait aussi vers l'autre une main menaçante qui parfois désignait les poissons, les autres individus et revenait vers celui auquel le locuteur s'adressait. L'intensité de la dispute était telle que tous les bruits du village paraissaient avoir été gommés par les voix qui se brisaient l'une contre l'autre. Subitement, les deux hommes se sont levés, leurs visages se sont encore rapprochés l'un de l'autre et leurs traits m'ont semblé, comme dans un processus rapide d'anamorphose, se déformer davantage. Leurs compagnons se sont levés aussi, rajoutant leurs corps gesticulant à la bataille, ainsi que leurs voix et leurs mots, dont j'entendais bien que ce n'était pas du vietnamien, mais dont je ne parvenais pas à comprendre s'il s'agissait de paroles d'apaisement ou bien d'encouragement à la haine et au pugilat. J'étais en train de me demander s'il fallait intervenir d'une quelconque façon afin de tenter de les ramener au calme, quand soudain, ils se turent. L'un des deux, qui avait été le plus vindicatif, sortit de sa poche une liasse de billets qu'il compta rapidement et tendit à celui qui se trouvait face à lui de l'autre côté de la bassine. Celui-ci recompta les billets, fit une sorte de signe d'acquiescement de la tête. Le premier homme se pencha sur la bassine, saisit par les ouïes deux poissons qu'il leva en l'air, examina sur toutes les faces, et comme il semblait en être satisfait, lui aussi fit un signe de tête et s'éloigna, accompagné par deux des spectateurs. Ce que j'avais pris pour une altercation allant crescendo n'était qu'un marchandage entre Chinois. Tout cela m'avait appris que nos corps, nos gestes, nos voix ne peuvent se lire avec justesse et sans contresens que dans une bulle circonscrite qui est celle de la culture dans laquelle nous avons grandi ou dans laquelle nous vivons depuis suffisamment de temps pour en connaître la grille de lecture. Peut-être Kundera et la femme qui l'accompagnait étaient-ils en train de se parler d'amour, d'échanger des idées et des mots doux, des phrases d'une infinie tendresse, mais dont je ne percevais que la surface irrégulière, malhabilement rabotée, faussement froide et rugueuse.